Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, avec l'auteur, compositeur, interprète Gérard Manset.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Nul ne savait pourquoi, ce capitaine voulait un océan à lui, un présent de la nature, qu'il espérait comme une prière. Dans votre dernier projet musical, Gérard Manset, l'histoire commence un matin. Un capitaine réunit une sorte d'équipage pour leur dire « La vie est un domaine où nous flottons. À l'appel de ce vent, nous regardons vers l'horizon qui va se dérobant, cherchons à nous rapprocher. De quoi ?» Alors débute un voyage vers un pays qui échappe, des îles qui n'existent peut-être pas, mais dans lesquelles fantasmes et visions semblent pouvoir flotter sans entrave. Une navigation vers un jadis jamais complètement désigné, guidé par des récits ancestraux, des mythes des origines, un récit de l'Éden. Ça s'appelle « À bord du Blossom », c'est le titre de ce nouveau disque. Gérard Manset, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Sur la pochette, quand on ouvre, on sort le livret, et à l'arrière de ce livret, il y a un portrait un peu mystérieux, une peinture de ce qu'on peut imaginer être l'un des capitaines. Qui est ce bonhomme-là ?
Alors, je ne sais pas qui il est, parce que j'ai pris ça un jour, comme je vais très souvent, enfin, j'allais très souvent, j'y vais de temps en temps, pour libérer la tête de tout un tas de choses, à Drouot, et donc j'ai un boîtier, je prends beaucoup de photos. Donc c'était une belle peinture, je pense du 19e, mais je n'ai pas de détails précis à ce sujet-là.
Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le visage peint de cet homme ?
Alors, j'avais pris deux, trois choses comme ça, quelques toiles, et puis c'était absolument sans intention préalable de quoi que ce soit. Et quand j'ai façonné au tout dernier moment, parce que dans l'album en question, là, de À bord du Blossom, j'avais plutôt des titres, je vais pas dire disparates, parce que je fais très attention à ce que je mets en rapport les uns avec les autres, mais qui n'avaient pas vraiment de relation entre eux. Et quand j'ai couché tout ça sous la chape de plomb merveilleuse et onirique du voyage des navigateurs du 19e siècle, alors j'ai été chercher un peu ce que j'avais, j'avais pas grand chose, mais j'ai retrouvé ça, et voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé, parce que sur la photo d'origine, il y a une partie du cadre doré, on voit le cadre doré. Je l'ai pris très vite, hein, parce qu'à Drouot, voilà, il y a du monde, machin, donc j'ai qu'un cliché, mais je le trouvais merveilleusement imbu, c'est pas le terme, habité. Par lui-même, il a un visage assez émacié. Je voulais le mettre d'ailleurs en cover, pour le visuel principal de l'album. Bon, les deux, trois personnes qui l'ont vu n'étaient pas très chaudes. Alors, j'ai finalement mis à l'intérieur, il ne m'en voudra pas. Mais je le trouvais très représentatif de ce que une sorte de Lord Jim de l'époque, voilà.
Finalement, ce sont des oiseaux qui sont les premiers à nous accueillir dans ce voyage. C'est simplement parce que vous avez cédé, ou c'est parce que les oiseaux ont aussi des choses à nous dire qui vous intéressaient, Gérard Manset ?
Alors oui, je rebondis, les oiseaux ont beaucoup de choses à nous dire. On saura un jour traduire tout ça. On sait maintenant que beaucoup d'entre eux ont pas mal de possibilités de s'exprimer pour appeler leurs copines, leurs petites camarades.
Ou leurs copains, ou leurs frères, ou leurs mères d'ailleurs. C'est pas que des chants séducteurs, les oiseaux.
Ah oui, mais je crois qu'ils développent 95% ou 98% ou 100% de leurs compétences dès qu'il y a une demoiselle dans le coin, bien sûr. Non, non, il faut parler, on parle sérieusement, là, on est dans la nature, là. On n'est pas dans la communication d'aujourd'hui. Donc dans la nature, monsieur, il appelle madame.
Et ça vous plaît ?
Ça me plaît beaucoup. Et puis en plus, il a des couleurs stupéfiantes et madame, elle est attirée. Et quelquefois, c'est madame qui a des couleurs stupéfiantes. Et lui, il s'en fout, il va... J'ai sorti il n'y a pas longtemps aussi un livre qui s'appelait Cupidon de la nuit, dans lequel il y a tout un chapitre qui est, voilà, qui décrit les manigances d'une petite fauvette qui se balade à droite à gauche et que je suis moi-même émerveillé, je suis du verbe suivre, émerveillé dans une des rues de Paris en la voyant se planquer d'un arbre à l'autre. Et j'ai eu des, comme ça, j'ai entretenu des relations avec cette petite fauvette. C'est pas fauvette d'ailleurs, c'est une petite mésange à tête noire.
C'est pas la seule, les seules images qu'il y a. Donc il y a les oiseaux, puis si on tourne quelques pages du livret, on arrive aux coquillages. Là aussi, il y a des choses à entendre.
Alors les coquillages, on est dans le monde, bien sûr, de la mer. On a envie de plonger. On ne sait pas trop si on remontera à la surface. C'est aussi des textes que j'ai écrits qui sortiront un jour. Où, voilà, on est dans les... Quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, j'étais émerveillé par les quelques illustrations montrant la mer débarrassant tous les paysages et voilà,
à la marée.
Se découvrant, oui, la marée invraisemblable, découvrant des kilomètres et des dizaines de kilomètres de profondeur, de roches enfin accessibles, de choses qui sont... J'ai d'ailleurs eu, alors on va arrêter parce que j'ouvre des parenthèses sans arrêt, sans les refermer. Petit aussi, enfant, je pêchais beaucoup dans la vallée de la Marne. Et un jour, il y a eu ce qui s'appelait, un mot que peut-être quelqu'un connaît, qui s'appelle étiage. Alors, la Marne a été en étiage. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi il y avait dû y avoir des écluses, j'ai cru comprendre plus tard, mais qui avaient dû être fermées, des dizaines de kilomètres en amont. Et donc, il n'y avait plus d'eau. Alors, la Marne, qui faisait peut-être, aux environs de la petite bourgade où j'étais, qui devait faire une cinquantaine de mètres de large, quoi, la moitié de la Seine dans le 16e, s'est retrouvé peut-être faire 10 mètres. Et donc, j'ai eu accès à tout un tas d'écrevisses, de petits poissons visqueux et noirs, et même peut-être de perches, enfin une quantité de gardons, on va pas dire combien, voilà, qui était accessible dans 10 cm d'eau. C'est absolument extraordinaire. On a envie de ne pas se réveiller de ces choses-là.
C'est vrai, mais d'ailleurs, c'est, il me semble, un disque, mais comme beaucoup de certains de vos disques, j'ai rarement cette dont il est assez difficile de se réveiller, ou peut-être qu'il n'y a pas forcément de désir d'être du côté du réveil, peut-être d'être du côté de la nuit, des rêves. Je parlais de fantasmes, éventuellement d'une sédimentation plus inconsciente. Ça veut dire que vous êtes volontiers de ce côté-là ?
Bien sûr. Et je cherche surtout à ne pas en sortir. C'est un privilège que de pouvoir rester dans l'irréalité, voilà. Non. Et tant mieux si vous me dites que quelquefois vous avez pu ressentir ou que d'autres peuvent ressentir cette sorte d'aspiration dont on ne veut pas. C'est Miyazaki, c'est tous les dessins animés les plus merveilleux. Voilà, on a envie de construire quelque chose de ce type-là parce que on a l'impression de servir l'humanité. Mais quand on fait, je ne vais pas citer l'art contemporain, mais enfin, je ne vais pas citer de nom dans l'art contemporain, mais dans tout ce qu'on voit d'abject aujourd'hui dans tous les domaines artistiques, que ce soit la littérature, que ce soit la communication. En général, et évidemment, et la peinture ou les arts graphiques en particulier, la photo surtout, qui est absolument épouvantable, très souvent, hein, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même. Enfin, je veux dire, voilà, on se dit, bah, quitte à choisir, autant faire du bien aux gens que voilà, faire du bien aux gens.
Mais je suis persuadée qu'il y a des artistes de l'art contemporain, de la peinture, de la musique, de la littérature qui ont les mêmes aspirations que vous.
Oui, j'espère, il y en a quelques-uns, je ne me rends pas bien compte. C'est très rare qu'ils arrivent à la surface.
Ou à vos yeux.
Ah non, c'est très rare, non. On pourrait prendre là de manière strictement factuelle et absolument avec une neutralité positive, une cinquantaine de revues, là, tout de suite descendre au premier kiosque, on les ouvre toutes, on ne va avoir que des choses destructives, maladroites. Le mot abject de tout à l'heure, il est tout à fait représentatif de la chose. Il faut aller où ça fait mal, il faut aller où c'est laid, il faut aller où c'est sale. Alors là, tout le monde y va, c'est ça qu'on vend aux gens aujourd'hui. D'où un autre titre qui est dans l'album, qui s'appelle « On nous ment ». Mais je reviens là-dessus, mais je veux dire, j'en fais pas non plus une religion. Je ne suis pas là pour accuser tout le monde. Simplement, je constate, parce que moi, j'ai mal. Moi, je ressens ces choses-là. Voilà.
Et vous allez de quel côté ? Alors, dans ces cas-là, Gérard Moncel, là où c'est libre et beau et bon, comme vous le dites dans de nombreuses chansons de « À bord du Blossom ».
Oui, évidemment. Quand on a le choix et qu'on est toujours à peu près encore préservé. Parce que le grand problème, c'est que beaucoup de gens qui, à l'origine, auraient été portés à ça, à la douceur, aux roses, à l'onirique. On leur a dit que c'était des mensonges, alors on leur a mis autre chose à la place. Alors il y en a quelques-uns qui sont absolument réductibles, pas mal d'artistes, mais il y a tout un tas d'adultes qui travaillent, qui croient ce qu'on leur raconte, qui lisent les journaux, qui écoutent la presse, qui regardent la télévision et qui... voilà, et qui sont tombés dans ce... C'est pas un piège, parce que c'est pas... J'y vois pas de grande machination, hein. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de calculé de la part de une sorte d'entité de dirigeants mondialisantes. Non, pas du tout, je suis pas dans ces projets. J'en entends parler, mais non. Je crois simplement que c'est comme ça, la planète va dans tous les sens, et que personne n'a cherché à rétablir tout ça par le côté positif. Il y a eu ce terme épouvantable il y a une vingtaine d'années qui s'appelait la transparence en politique et dans toute chose sociale. Voilà, je ne crois pas qu'il soit bon de tout dire aux gens. Il est très bien, ça ne veut pas dire du tout que je prêche l'ignorance, hein, très loin de là.
Et une forme d'opacité, pourquoi pas ?
Oui, alors le mot aussi opacité est impropre. Il ne serait pas le contraire de la transparence, c'est très difficile à déterminer. De toutes ces voies qu'une vie, qu'une existence peut offrir. Et puis, on ne peut pas dire à tout le monde que c'est celle-là qu'il faut prendre. Quelquefois, c'est une autre. Et puis, il faut simplement s'en référer ou s'en fier à ce qu'on a découvert soi-même. Non, je crois, je suis vraiment pour la découverte personnelle. Moi, je suis un autodidacte, de toute manière.
Justement, puisque vous dites, finalement, je jouis encore du privilège de ne pas me réveiller, d'être du côté de celles et ceux qui n'ont pas à se réveiller. C'est un privilège qui offre quoi ?
Bah, au moins de dormir tranquille, en paix avec soi-même. C'est-à-dire que demain matin, on peut me rappeler. Là, je peux sortir du studio, tomber par terre, on m'emmène. Je sais que là-haut, Saint-Machin, je sais plus lequel, là, il va me serrer la main, il va me dire, Gérard, ok, ça va. Au moins, toi, t'as fait ton taf, t'es en règle. Alors qu'il y en a beaucoup, là, dans toutes les instances internationales, là, qui, quand ils vont monter là-haut, ils vont avoir des comptes à rendre. Alors qu'ils ont toujours cru bien faire. Ils ont toujours cru servir l'humanité. Ils sont trompés, les pauvres. Mais personne n'était là pour établir ce qui est tordu, comme on dit dans le bouddhisme.
Et vous vous sentez une mission de cet ordre-là ? De servir l'humanité ?
Ça pourrait se résumer en un terme qui serait l'honnêteté. C'est-à-dire le travail d'un bon père de famille. On disait ça avant. C'est-à-dire savoir... vous savez, je n'aurais pas trop parlé... Je ne vais pas parler trop longtemps de bouddhisme, mais il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai découvert l'octuple sentier... l'enseignement primordial du Theravada, du petit véhicule, et donc c'était que après sa retraite pour arriver à trouver sur quoi il allait asseoir sa philosophie, le Bouddha, suivant la légende, suivant les textes et les bon, s'est réveillé après 15 jours ou 12 jours, je sais pas quoi, au pied de l'arbre machin, là tous les trucs, et il a basé tout son enseignement futur pour la libération de la douleur sur le fait de sa propre perception du bien et du mal. Ça, je n'en ai jamais entendu parler. On a des tas d'exégètes tibétains et autres. Tout ça est remarquable. Je loue toutes les sortes de bouddhisme. Mais revenir sempiternellement à l'origine, ce que personne ne fait, qui est sa propre perception du bien et du mal. Voilà en quoi on peut être honnête. Alors aujourd'hui, il y a du travail à faire, hein, pour dégager tout le reste.
Et ça peut passer par l'écriture et la composition musicale et la poésie.
Ben oui, parce que par exemple, la composition musicale reste... Alors, redevenons concrets pour que les gens comprennent... je fais un titre, mais beaucoup de gens font des chansons, beaucoup de gens écrivent des textes. Déjà, moi... J'attends que le truc tombe tout seul, soit déjà à peu près une sorte de bloc à dégrossir. Bon, je fais les choses en général en même temps, parole et musique. Bon, soit au piano, soit à la guitare. Et puis, quand ça arrive, je ne me contente pas de trois couplets à sème et puis d'un petit refrain. Et puis après, je donne pas ça à un orchestrateur pour qu'il bricole un machin dans un studio où je sais même pas, où je connais tout juste l'adresse. Donc, je l'ai toujours dit, ça fait 50 ans que ça dure, je fais tout. Bon, je fais tout, pas pour m'accaparer toutes les fonctions, parce que petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus rapide, plus efficace, et surtout que c'est comme un auteur. Il n'a pas quelqu'un qui lui réécrit des chapitres au fur et à mesure qu'il a terminé une ligne. Bon, il écrit tout. Donc je suis dans une sorte de registre littéraire quand je fais de la musique, voilà. Et là, vous pouvez vous permettre, comment je pourrais dire, de faire le boulot en élaguant tout. C'est-à-dire que je pars de Rodin avec des sortes de cassés, de cassures, de trucs approximatifs, quelquefois maladroits d'ailleurs, pour arriver à Donatello, parfaitement lissé, impeccable.
Vous dites que la fin, c'est parfaitement lissé. C'est marrant parce que alors, moi, en écoutant Gérard Manset, je me dis jamais c'est parfaitement lissé. Alors, je vois encore les traces de doigts de Rodin, quoi.
Alors là, bon, ce serait une autre conversation. Quand je dis lycée, c'est ce que j'en vois moi, c'est ce que j'en perçois moi, c'est-à-dire après les 450 allers-retours de mixage que j'ai refait chez moi, de mots que j'ai remis, de mots que j'ai retirés, du livret que j'ai aligné ou pas aligné, de photos que j'ai changées, de cordes que j'ai remis puis retirées, de cuivre, de pas de cuivre, de voilà, de batterie disparue d'un seul coup. Par exemple, il y a un titre sur l'album d'avant qui s'appelle Opération Aphrodite, alors le titre c'était Que t'ont-il fait, je l'ai eu pendant 15 ans en mettant de la batterie, en la retirant, en changeant les couplets. Bon, pareil, la Manila Belle, je l'ai pendant 15 ans, je l'ai sorti sans le, enfin je l'ai continué sans le sortir pour finalement le réenregistrer intégralement là, à l'identique avec d'autres musiciens. Non, c'est sans fin. Donc qu'après à l'âge que j'ai, on puisse entendre dans la voix des imperfections, qu'on puisse avoir l'impression que de temps en temps, bah oui, il a ouvert le potard de la réverb, puis il l'a pas refermé, des choses. Mais en général, je suis très lucide là-dessus. Et quand ça y est, c'est que je l'ai validé. Parce que j'aime aussi beaucoup les sortes d'imperfections quelque part. Donc, on va dire que ce serait plutôt un Donatello, où de temps en temps, on aurait laissé une partie pas inachevée, mais
à dessein.
Plus ou moins à dessein. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le hasard. C'est-à-dire que c'est pas toujours volontaire. Je crois que quelqu'un d'autre travaille à mon insu et est là pour diriger l'affaire. Donc je le laisse quelquefois, je lui laisse la bride sur le cou.
Donc c'est lui qui vous a soufflé, celui que vous laissez la bride sur le cou, cette histoire de capitaine ?
Alors, ça se passe la nuit. Moi, tout se passe la nuit, c'est-à-dire quand je dors. Un être surnaturel, prolifique, prodigue.
Sympa ?
Je ne sais pas, je connais pas son visage. Probablement, enfin charitable, sinon sympa, humaniste, vient s'emparer de ma pauvre petite cervelle de préadolescent. Oui, d'enfantin.
Non, mais c'est avec tendresse que je rigole. Hein.
Oui, je sais, parce que moi aussi j'ai beaucoup de tendresse vis-à-vis de celui que je suis dans ces moments-là, parce qu'il est fragile. Mais heureusement, l'adversité est devenue positive et cette fragilité, finalement, elle a dû la combattre par des tas de raisons qui font que maintenant, on m'aime bien. C'est très bizarre de dire ça, mais tout ce qu'on aurait eu et tout ce qu'on m'a à certains moments reproché, des écarts, pas des fautes de langage, mais pas des prises de position non plus, mais cette sorte d'inconscience qu'aurait un enfant. Les enfants, ils disent les choses. Il y a ce conte de Perrault, je pense, le roi nu, là. Alors, le roi se balade. Il a demandé qu'on lui taille le plus bel habit. Alors, je sais plus quoi, l'habit, ben, il y en a pas. On lui a inventé un fantasme. Alors, il se balade, il est tout nu dans la ville. Personne n'ose rien dire. Sauf un enfant qui dit, mais le roi est nu. Donc, cette sorte comme ça de bravache enfantine, bon, elle a agacé un certain temps, puis peut-être que maintenant, bah, les bras leur en tombent, bah, ces détracteurs, alors ils acceptent.
Et alors l'être surnaturel qui parle à cet endroit de vous-même, un peu enfantin et adolescent, il lui dit quoi ? Il lui dit, il y a un capitaine qui un matin...
Alors il ne me dit pas, non, c'est beaucoup plus fort que ça, il ne me dit rien. Il sait qu'il a un automate à sa disposition. Et alors quand l'automate se réveille, quand l'automate a pris son crème avec un croissant en lisant quelques âneries d'aujourd'hui, parce qu'il se tient au courant, l'automate en question, il aime voir où vont les gens, il est compatissant, il est toujours dans ce bouddhisme. Et donc, au bout d'un petit quart d'heure, quand le même automate a regardé par la fenêtre pour voir quel temps il faisait, tout ça, qu'il va s'asseoir, qu'il a toujours des trucs à corriger, relire, ressortir, exhumer. Alors non, soudainement, il faut l'interrompre, on lui prend la main, on le soulève comme une chiffe molle. Et comme un pantin, on va le promener de pièce en pièce en lui faisant prendre un ouvrage qu'il n'aurait jamais imaginé sortir. Et cet ouvrage, on le lui fait ouvrir. Et une fois qu'il l'a ouvert, on le lui fait feuilleter. Et durant le moment où il le feuillette, cet automate se demande pourquoi. Parce que là, à ce moment-là, l'individu, le Gérard en question, l'auteur-compositeur, remonte à la surface. Et il se dit, mais n'ai-je pas vu passer quelque chose d'extraordinaire ? Et alors, il a vu passer quelque chose d'extraordinaire. Il revient en arrière, il remonte le courant des pages une à une, et il trouve, c'est le mot « blossom ». Et alors, que vient faire le mot « blossom » à 11h du matin, dans une matinée ensoleillée de printemps, dans le 16e arrondissement ? Un mot que, bien que cet automate connaisse quand même l'anglais, non, il n'en a pas la perception réelle. Alors, Non seulement il y a le mot Blossom, mais il y a autre chose.
Attendez, pousse, est-ce que c'est indiscret de demander à l'automate dans quel livre il trouve Blossom ?
Non, oui, c'est indiscret.
D'accord. Alors, je referme.
Et c'est pas indiscret, non, c'est pas, mais simplement inopportun. Alors, en tout cas, ce Blossom, il l'a vu dans une phrase. Et il retrouve la phrase. Et la phrase, c'est « En 1825, le capitaine Frédéric, je ne sais plus, passe le Cap Horn et se dirige vers l'archipel des Pomoutou. » Et là, ça y est, l'intrus de tout à l'heure, qui m'a pris la main, là, il est reparti se coucher, où il est parti en assister d'autres. Et moi, il me laisse. Il sait que ça va, l'affaire va suivre. Et là, c'est encore 3 mois de boulot pour refaire tout ce que j'avais déjà terminé. Y rajouter des chœurs, y rajouter tous les textes que vous avez entendus, aller chercher dans tous les textes que j'ai ce qui pourrait s'y apparenter, les modifier, ramener le prénom de Amaïti Amaïta qui me tombe du ciel comme ça, on ne sait pas pourquoi, au débeauté. Faut croire qu'elle a dû exister quelque part. Il était chef. J'ai cru déceler le sourire qu'on a envers quelqu'un ne saisissant pas les conséquences de l'allongement du temps. Il hésita. Je l'ai vu aller quérir un petit objet en os, une flûte de corne qu'il a saisie, plaquant ses doigts sur des stigmates dissymétriques en forme de trous si miniaturisés qu'on aurait cru il s'agissait d'insectes les ayant entaillés. Quelle heure pouvait-il être ? Et le mot « heure » avait-il même un sens ? Je distinguais l'étoile. Je dis l'étoile parce que tentant d'identifier en évaluant certaines constellations, j'en ai conclu que, de l'îlot où nous étions, la seule étoile visible était celle-ci. Mes yeux s'accoutumaient à cette étrange obscurité quand de la proximité des autres cases, j'ai entendu monter et s'amplifier un son. Puis soudainement un second identique, répondant. Je ne sais, mais la magie de la note interminable qu'elle produisit alla décrescendo, puis remontant vers les aigus, donna une sensation d'invraisemblance et d'irréel.
Invraisemblance et irréel. Gérard Manset, c'est un extrait. Alors, on a été obligé de découper. On a hésité beaucoup, mais
là,
on a découpé.
Là, vous n'avez rien découpé,
non,
il me semble.
On n'a rien découpé. Ah bon. On a pris une plage. Mais si oui, vous voulez, si vraiment on avait été, comment dire, fidèle au projet, il aurait fallu faire entendre la totalité des plages mises bout à bout. Vous êtes d'accord ?
Difficile.
Difficile. Donc, on ne l'a pas fait. En tout cas, on peut entendre ici l'un des régimes de paroles qui existent dans ce projet à bord du Blossom. C'est vous, en tant que récitant. Comment est-ce que vous avez vécu cette parole-là ? Vous enregistrez parler ? Personnellement, moi, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs d'enfance, de cassettes, où on me racontait une histoire.
Oui, ben, c'était le but. Je raconte toujours des histoires. Je me les raconte d'abord à moi-même, mais je les raconte aussi aux autres. Enfin, il faut déjà qu'elles m'enchantent. Je rouvre la parenthèse bouddhiste. Se faire du bien, pour faire du bien aux autres, faut-il déjà d'abord se faire du bien soi-même ? Bon, en ce sens, on peut promulguer le bon. En tout cas, de réentendre cette plage, cet index, oui, ça m'a amusé parce qu'il illustre tout à fait ce qu'on ne peut pas imaginer en l'entendant, c'est-à-dire le nombre de choix que j'ai pu faire. C'est-à-dire que j'ai 4 ou 5 textes qui n'ont rien à voir entre eux. Il y en a un qui est complètement au Brésil, qui n'a rien à voir. Ensuite, j'ai eu un truc qui s'appelait « La flûte de l'archipel des perles », dont j'ai gardé le titre, mais qui n'a aussi rien à voir, qui se passe chez les Cunas, en face du Venezuela. Après, j'ai des musiques qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, j'avais des trucs trop longs qu'il fallait recouper. J'avais des rythmes différents. Choisir entre l'un, entre l'autre. Celui-là m'a donné pas mal de difficultés. Mais après, bon, s'amuser à placer les mots où il faut, virer des phrases, garder le dixième de ce qu'on a prévu, puis finalement tout foutre en l'air pour prendre autre chose. Enfin bon, ça n'a pas de fin.
Ça n'a pas de fin, mais vous dites ça avec un sourire assez gourmand.
Ah oui. Oui, c'est là. J'avais eu un jour cette analogie, le mot gourmand m'y fait penser. C'est vous entrez dans une pièce, vous êtes dans un château merveilleux, de comte bien sûr, et puis vous avez une table immense, garnie de tout ce qu'on peut imaginer, vouloir goûter de bon, mais alors vous ne prenez rien, vous chipotez, vous écartez, vous tournez autour, tout vous appartient, c'est ça qui est fantastique. Cette sensation de possession de tout. Alors, c'est, je pense, que le cas de certains grands propriétaires, je ne sais pas, mais ayant tout, on hésite. Puis finalement, alors quelqu'un vient taper à la porte, toujours celui de tout à l'heure. Il dit, mais enfin, t'es là, on t'a ouvert cette pièce, il y a cette table, il y a tout. Les gens attendent dehors, ils sont en bas du château, là, ils frappent, ils hurlent, il faut que tu leur montres, amène-leur une assiette garnie de... Alors il faut choisir, alors on en essaye deux ou trois, ça va, il y a un fruit, il y a une pâtisserie, il y a un peu de, voilà, un pâté, quelque chose, un verre de vin, alors quel vin, là, on tourne en rond, mais l'autre, là, l'intrus tout à l'heure de la nuit, il est toujours là, pressé, mais non, on t'attend, alors bon, à un moment on décide.
Tout à l'heure, vous avez dit que pour enchanter les autres, il fallait d'abord s'enchanter soi-même. Qu'est-ce qui vous enchante dans ce conte-là, où finalement c'est le présent de la nature, où il y a quelque chose d'une destination qui... au départ, on a l'impression qu'elle se recule toujours, qu'on ne va jamais l'atteindre, cette île-là. Pourquoi ce conte-là vous enchante, Gérard?
Oui, alors, non, pardon. Alors, évidemment, ce qui m'enchante, c'est pas tellement, je l'ai toujours dit, c'est pas tellement le fond, c'est la forme. C'est-à-dire le fait de parler, le fait de couper, le fait d'entendre, de ramasser, de stretcher, comme on dit, de rajouter tel ou tel instrument. C'est-à-dire d'arriver à peaufiner en tant que maître d'œuvre quelque chose dont j'ai tous les tenants et tous les aboutissants et que je fais de mes mains seules. C'est ça qui m'importe. Après, l'histoire, ce qu'elle raconte, évidemment, j'essaie que, quand même d'être à peu près rationnel, logique, onirique, de faire rêver tout ce qu'on veut. Mais ça, j'en ai tellement. Vous avez vu qu'au débeauté, je vous invente deux histoires. C'est pas l'histoire. J'en aurai toujours. Je me promène dans la rue. J'en ai des kilomètres. Tous les matins, j'ai 25 idées. Donc, c'est pas tellement ça. Les textes tombent, des mélodies, des bouts de trucs. Bon, je suis obligé d'en prendre des bribes. Le dernier titre qui s'appelle Le Paradisier, qui est très beau, mais il est très beau pourquoi? Parce que justement, j'ai réussi à me confiner dans le rien, dans le minimaliste. J'ai gardé mon petit dessin de guitare et je l'ai enveloppé effectivement d'une fantastique réverb, parce que si je le faisais plus normalement, c'est fini, on peut rien faire. Donc c'est tous ces choix. Et là, toujours l'intrus tout à l'heure, là il est plus là, là il a lâché l'affaire, là il se balade je sais pas où là, mais il veut pas prendre ses responsabilités, celles-là il me les laisse.
Donc ce qui vous enchante, c'est travailler, choisir, oui, prendre vos responsabilités, c'est ça qui vous
exactement,
enchante.
Exactement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sculpture, je suis plutôt dans le dégrossissage, voilà, le gros œuvre.
J'avais marre de faire... titre après titre, j'ai voulu donc faire un concept album. Ça dure quoi, jamais que 10 minutes par, ou 15 minutes par face, ça fait une demi-heure. Le prochain, voilà un scoop, le prochain sera un double album, parce qu'au moins j'aurai une heure pour m'exprimer, dont une plage de 15 minutes. Mais il sera assez éprouvant, le prochain. Tellement éprouvant que je vais acheter un agra. Et les plages difficiles, je les ferai ici, chez moi. C'est-à-dire pleurer, hurler, craquer. On peut pas faire ça au moteur.
Mais j'ai l'impression que le texte devient plus personnel à partir du moment où il y a le murmure, où il y a la barrière du temps et des 3 minutes de chanson qui disparaît. Tu parles de style.
Oui, style. Les 3 minutes, c'est bien, mais c'est une contrainte. C'est une convention, mais c'est une contrainte. Parce que le chrono marche, et puis on se dit, merde, au bout de 2 minutes, alors que c'est... Ça commence à être intéressant, il faut penser à la dernière minute où il va falloir chanter. Alors c'est chiant.
Mais est-ce qu'il arrive par moment où, lors d'un enregistrement, tu réécoutes et tu dis, ma voix, ça va pas?
Non. Je fais une prise.
Toujours qu'une prise.
Enfin, une prise ou deux. Maintenant. Ouais.
Et ça se passe au mixage, l'équilibre ou...
Ah oui, il y a un problème de mixage. C'est-à-dire que dans le disque, on a, je pense, 20 ans d'avance par rapport au preneur de son du cinéma. Le cinéma, c'est mono, et puis il y a des perchemin, et puis si le cadre est large, il faut qu'ils se démerdent à foutre les micro-cravates de merde. Encore que Gabin, il disait « démerdez-vous ».
On est en 1982, c'est la voix de Serge Gainsbourg au micro de Noël Simsolo sur France Culture qui parle de ce que c'est qu'un concept album et de la liberté qu'il a trouvé à sortir des 3 minutes. Tout à l'heure, vous parliez des couplets SACEM, et ben lui, il parle des 3 minutes de chansons radio, Gérard Manset. Ce qu'on lui demande à Gainsbourg, c'est est-ce que sortir de cet impératif du timing imposé par la diffusion lui permet d'écrire des textes plus personnels. Est-ce que ça vous parle, l'idée de textes plus personnels?
Faut déjà que j'arrive à me remettre d'une petite dose de Gainsbourg qui pour moi est très difficile à supporter. Donc je vais essayer de me rétablir dans un monde normal, parce que on entend d'ailleurs là à 60 ans, je sais pas que c'est lui, je crois que c'est quelqu'un d'autre, mais on entend que c'est très poseur, c'est posé comme voix, c'est.
Et ça vous amuse pas, ça vous fait pas rire?
Non, et puis c'est surtout habité de rien, quoi. C'est habité de rien. Bon, passons. En tout cas, la question, c'était quoi ?
Est-ce que le fait de pouvoir être sans format, ne pas s'imposer de format, lui permet d'écrire des choses personnelles ? Et moi, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, l'idée d'écrire des textes personnels, Gérard Manset ?
Mais la question ne s'est jamais posée. Ils ont d'emblée, tout de suite, dès ma naissance, c'était personnel. À partir du moment où vous ne laissez pas l'extérieur entrer, ils sont personnels. Seulement faut-il encore être vigilant avec soi-même. Évidemment qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais le format, je me l'impose. Bien évidemment que j'ai des formats. Quand il y a 10 minutes, c'est parce que ces 10 minutes, elles sont passées par 3, par 5, par 8, par 12, par 9, puis qu'à la fin, elles se stabilisent comme ça. Dans le premier titre qui s'appelle « Ce pays », j'en ai des versions où il n'y a pas l'introduction, il y en a des versions où il n'y a pas les filles, où il n'y a pas le petit garçon, il y en a où il y a 3 fois le petit garçon, il y en a où il y a des couplet en moins, il y en a où il y a 2 séances de cordes, puis la dernière de Bangkok, il y en a où je n'ai pas doublé tout ce dessin de violoncelle qui était le premier à l'origine par toutes les cordes, donc voilà, il y en a où il n'y a pas de hautbois, c'est sans fin, mais je répète, le format, j'y suis très vigilant. C'est comme le cadre d'un tableau. À Poussin, il y a une sorte de nombre d'or à l'intérieur. On ne fait pas n'importe quoi. Mais ce qu'a répondu... on va pas revenir sur Gainsbourg. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il a répondu, je crois.
C'est marrant que vous disiez, finalement, pour moi, ça ne s'est jamais posé la question de décrire des choses personnelles ou pas, parce que je n'ai jamais laissé entrer l'extérieur. Mais en fait, ce disque, il raconte l'inverse à bord du Blossom. Il raconte précisément un homme, capitaine, qui va...
Pardon, je vous interromps, on en revient toujours à la forme et au fond. Oui, sur le fond, il raconte ce que tout le monde raconte. Lord Jim, encore une fois, Pierre Loti.
L'aventure,
bien sûr, mais sur la forme, les autres ne sont pas intervenus. J'en reviens toujours au petit garçon qui fait son petit dessin à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans, on lui offre une boîte de feutre, c'est Picasso. Et donc, il fait des choses merveilleuses, tous les parents les accrochent. Après, ils ont oublié à quel point leur enfant était merveilleux, inventif, phénoménalement inapte à entendre ce que la société pouvait lui apporter sur le plan graphique.
Est-ce que ça veut dire que vous... Personne ne l'a oublié ou que vous ne l'avez pas oublié? Ça veut dire que vous, on vous a laissé être dans cette espèce d'immédiateté de rapport à l'art ou à l'expression que vous décrivez là, Gérard Manset?
On m'a laissé comme on laisse en général les enfants, sauf que moi, je n'ai pas grandi. Donc, je suis resté avec ça, comme ça, à l'état inerte, une sorte de gosse, je ne sais pas de quel âge, qu'on aurait posé sur une plage, et puis il y serait toujours, avec ces mêmes objets. Alors, peut-être que c'est un peu ça qui peut... émerveiller les autres, petit à petit, parce que c'est par la bande que j'y suis venu, c'est avec des choses comme Animal, on est mal, c'est avec des choses comme La mort d'Orion, une sorte d'ovni incompréhensible, que même moi, je n'ai pas compris, je me suis jamais posé la question, pour ceux qui connaissent ce truc qui date des années 71, dont on a dit le premier oratorio français, je sais pas quoi. C'est la première fois que j'écrivais des cordes, j'ai écrit pour 30 musiciens, alors il y avait un ou deux bécards qui se baladaient, qui n'étaient pas bons, j'avais appris l'orchestration, l'instrumentation en 3-4 mois, je me posais pas la question de rajouter un orgue. Je me souviens, j'ai été l'enregistrer à Notre-Dame. Et puis après, j'ai gaulé des trucs, je sais plus, à la télévision, je sais plus sur quel enterrement aussi, des chœurs. Et puis, je faisais feu de tout bois, mais la question ne se posait pas. Je mettais des bandes à l'endroit, à l'envers, je grattais le micro. J'ai même, à un moment, sur la voix de Gianni Esposito, je m'en souviens, parce qu'à l'époque, On me prenait pour une sorte de découvreur. J'étais avec un génie du son qui s'appelait Bernard Estardi au studio CBE qui venait de s'ouvrir. Mais comment dire, j'arrivais le matin, j'avais une idée, il fallait absolument la faire. Alors par exemple là, c'était pour la voix de Gianni Esposito qui dit « Orion s'entend sa fin venir » ou je sais plus quoi, la fin de la mort d'Orion. Je voulais quand même qu'on sente qu'il y avait un âge avéré dans cette narration. Alors j'ai pris la bande, on l'a piétinée, je voulais absolument la piétiner, on l'a froissée, on l'a détériorée, de sorte que c'est Orion, ça bouge, ça, le matériau est travaillé. Alors donc, ça et d'autres choses. Hein. J'ai compressé, alors à l'époque, je le dis tout le temps, parce que ça, j'en ai été très fier. Les compresseurs venaient d'arriver. Alors, compresseur, maintenant, tout ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Mais alors, il y a un phénomène dans la compression, c'est que le son, le signal initial, bon, il est au niveau zéro. Et puis, tout ce qui est dans le trou, dès qu'il y a le moindre instant, ça remonte. Alors, on peut corriger ça de sorte que ça remonte très vite ou que ça remonte plus lentement. Enfin, il y a 25 réglages. Alors, moi, j'ai compressé dans un titre qui s'appelle Le Paradis Terrestre, toute la coda, toute la fin d'un titre par un autre. Ça veut dire que dès que le niveau passait en dessous d'un certain seuil, hop, c'était l'autre titre qui remontait. C'est-à-dire la coda de la mort d'Orion ou je sais plus quoi avec les flûtes. Un truc de fou furieux. Bon, ben voilà, ben moi je suis à l'aise, je suis chez moi, je fais ce que je veux, du moment que ça fonctionne. Après, il y a des tas de choses que j'ai faites aussi que j'ai jetées. Hein,
Franchement, dans À bord du Blossom, vous êtes tellement à l'aise, tellement chez vous, faites tellement ce que vous voulez que vous faites ça.
Elle vous prenait par le col, elle vous expliquait que c'était comme ça, il était un cas d'école.
Il vous prenait par le col, il vous expliquait que c'était comme ça, qu'il était un cas d'école.
Vous chuchotez tout bas, c'est mon karma, c'est mon karma, c'est mon karma. Karma, c'est mon karma. Il a quitté Cayenne à la nage. Il est arrivé sur une plage. Il a convoqué les chefs de village. Il a dit je suis le seul survivant, le seul rescapé de ce naufrage. Plus aucun des membres de l'équipage, tous mangés par les requins bleus. C'est mon karma, c'est mon karma, c'est mon karma, c'est mon karma. On l'a plongée tout habillée avec quelques opossums dans de l'eau qui bouillait dans un grand feu.
On l'a plongée tout habillée avec quelques opossums dans de l'eau qui bouillait dans un grand feu.
On a fait circuler les bouteilles de rhum, blanc blanc part en fumée.
Blanc blanc part en fumée.
Blanc blanc part en
fumée.
Il a fini par renoncer à épouser la fille du grand Manitou. Il a filé comment ça, nul ne le sait, avec tout l'or du Pérou. On l'a retrouvé fait comme un rat dans un des palaces de la rivière. Sans même avoir le temps de faire pisse, et là seulement dit c'est comme ça. C'est mon karma, c'est mon karma, c'est mon karma, c'est mon karma.
C'est mon karma.
Dans un des palaces de la Riviera, seulement dit c'est comme ça.
Gérard Manset, c'est un extrait de À bord du Blossom, et j'avoue que lorsqu'il a résonné dans mon salon, j'ai eu un petit sursaut. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, vraiment, je ne l'attendais pas du tout là.
Oui, il arrive aussi à être léger. Non, non, très difficile à chanter ce titre. Par contre, il y en a beaucoup sur du film. Manila Bay, c'est inchantable. Parce que quelquefois, je me suis dit, j'aimerais bien avoir deux, trois qui chantent à ma place, qu'on vit un tel, c'est infaisable.
Non, mais il faut quand même qu'on parle de cette chanson, donc c'est mon karma.
Donc quand je dis je l'attendais pas du tout là, c'est pas du tout... Oui. Il arrive aussi à être léger, mais c'est musicalement. Musicalement aussi dans des influences, dans un répertoire. Ça va chercher du côté du zouk love, du calypso, de la musique oui. antillaise.
Bah oui, quand le titre me vient, j'ai la sèche à la main, bah la tournerie elle est comme ça. Donc le rythme, voilà, donc c'est un calypso, oui, il faut bien... Oui.
Et vous, ça vous surprend pas, quoi ?
Ben non, parce que moi, j'en ai de toutes sortes. J'ai tous les trucs qui me tombent, des valses. J'ai un très, 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 très beau titre. Je devrais pas dire ça, parce que maintenant, il y en a que ça agace. Mais enfin, Gérard, qui es-tu pour te dire que tes titres à toi sont bons ? Ouais. Eh ben non, j'ai un très beau titre. Voilà, qui s'appelle « Le peintre du dimanche ». En plus, c'est un titre merveilleux, à la Charles Trenet. Et d'ailleurs, du haut du ciel, il doit m'entendre, il doit rigoler parce qu'il doit le connaître, il l'a entendu, et il doit se dire, ouais, quand même, là, il marche sur un plate-bande. Donc, le peintre du dimanche, c'est une valse, c'est une petite valse lente. Bah, ça fait des dizaines d'années que je le traîne sans arriver à le mettre n'importe où, parce que, après, voilà, faut que ça... Là, c'est uniquement à cause du texte que j'ai pu le mettre, là, c'est mon karma. Parce que bon, il a quitté Cayenne à la nage, on l'a retrouvé, machin, sur une plage, la fille du village, tous les trucs. Bon, on est un peu dans le capitaine Frédéric quelque chose, là. Voilà, donc il avait sa place, mais il avait même sa place avant que ce soit Blossom, puisqu'il n'y avait pas encore Blossom, mais bon.
Vous l'aimez bien ?
Ben c'est surtout qu'il y a un moment, faut rafraîchir la température, parce que il y a Manila Belle à qui suit, là, qui est chaud, et puis il y en a quelques-uns comme ça, et puis on s'est endormi pendant trois quarts d'heure avec ce pays. Alors il y a eu On nous ment, qui réveille un peu. Alors après, c'était difficile de le mettre ailleurs, parce qu'on entre dans des choses plus graves. Il y a La Vierge pleure, qui est quand même d'une gravité... oui, on peut en dire deux mots, là.
Bah, on peut en dire deux mots de La Vierge pleure, parce que ça fait longtemps, elle aussi, que vous l'avez dans vos besaces, ce texte-là.
C'est vrai. Mais inachevé, c'est-à-dire j'avais quelques couplets, comme c'est souvent le cas. Toujours l'individu de la nuit là qui m'a habité pendant quelques heures au matin me donne ce petit travail qu'il a concocté de son côté. Donc j'en ai quelques phrases. La phrase c'était « Elle a reçu son émissaire, il lui remet la lettre ». Alors rien que cette phrase, je voyais la scène, je vois le cinémascope, je vois le film, je vois tout. Puis après...
Mais c'est tout de suite La Vierge.
Elle est venue après, parce que oui, je voyais... C'est le mot émissaire. Je devais avoir en tête une toile, je ne sais pas de qui elle fera... Pas Fra Angelico, mais je ne sais pas de quel peintre du Quattrocento, je ne sais pas, il y a une très... Non, c'est plutôt un nordique. Je ne sais pas quel est ce peintre absolument merveilleux, maître de quelque chose, comme ils en ont là-bas, dans les Flandres. C'est peut-être plutôt un maître, oui, et où on voit une vierge, et donc c'est l'Annonciation, oui, c'était l'Annonciation. C'est ça qui m'est venu en tête, donc elle lui remet la lettre. Bon, alors après, le texte est venu, terrible, de sa montagne, elle voit jusqu'au, je sais plus quoi, aux confins de l'Espagne, du Guadalquivir, como saber, como vivir, où je chante un peu en espagnol, pourquoi pas. Oui. Non, et alors la fin, dans le grand palais du passé... La Vierge solitaire, bon, décide de se taire pour des millions d'années, mais il y a une autre phrase. Dans
Quelqu'un lave par
Quelqu'un
terre.
Quelqu'un lave par terre.
Tant j'étais... de choses sont entassées. Voilà. La Vierge solitaire décide de se taire pour des millions d'années.
Voilà, là j'étais très fier, parce que je répète, il y a des, comme ça, il y a des articulations. Donc il y a des choses qui ne sont pas de moi, là. Elle lui remet la lettre, bon, ça c'est venu comme ça, tout seul, c'est inconscient. Mais après, j'ai le truc, il faut que je le termine. Et alors là, après le refrain chanté en espagnol, quand je retombe sur terre, et que là, c'est moi qui suis seul responsable pour... J'attends, je laisse la chose résonner, je regarde par la fenêtre, par où ça va venir, et ça vient dans le grand palais du passé, quelqu'un lave par terre, ou alors là, je me lève, là. Faut que j'aille respirer un grand coup, parce que c'est impressionnant, quoi, comme image. Pour moi. Hein. Puis après, la rime, la Vierge solitaire décide de se taire, bon, pour des millions d'années. Mais ça se passe comme ça.
C'est un grand palais du passé que vous aimez bien ? Arpenter, visiter.
C'est toutes les églises colossales, toutes les nefs abyssales qui sont celles de notre enfance, enfin beaucoup encore, mais bah, évidemment. Non, oui. C'est des Vatican partout. Je ne suis pas en train de parler de religion, là. Je parle d'édifices, je parle d'architecture monumentale et fantastique qui habite tout le monde, évidemment que c'est.
Et de manière plus métaphorique, le grand palais du passé, c'est quelque chose que vous aimez bien visiter, Gérard Manset ?
Est-ce que je l'ai jamais visité ? Non, on en est tenu à l'écart, on est au seuil, on n'a pas le droit d'entrer. Oui, bien sûr que c'est quelque chose que j'ai toujours visualisé.
Toujours visualisé, mais jamais visité ?
Non, on n'a pas le droit, ce sera plus tard là-haut, quand on y sera, mais
Décidément, est-ce qu'on vous attendait à parler autant de l'au-delà aujourd'hui ?
Mais j'ai toujours été dedans, hein. J'en ai toujours parlé. Hein. La mort d'Orion, c'est pas autre chose. Hein. Orion sentant sa fin venir, dressa ses habitants contre leurs souvenirs. Alors on m'a dit après, mais c'est le mythe de je sais pas quoi, il divorce ses enfants. J'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit, je suis complètement illettré dans tous les domaines. Donc qui m'a dit ça, qui m'a dicté ça ? Bon, je sais pas.
Notre grand problème, et je dirais un malaise de notre civilisation, c'est que l'ordre du rationnel et l'ordre du poétique sont devenus des ordres complètement séparés. Tandis que dans toutes les civilisations dites primitives qu'étudient les ethnologues, ce sont des ordres étroitement unis. Et le rationnel s'exprime sous forme poétique, et dans le poétique, on trouve du rationnel à l'état latent. Et tout mon effort, je dirais, si je devais le caractériser en un mot, celui de toute ma vie, celui de tous mes livres, ça a été précisément d'essayer de retrouver, à travers l'étude de ces sociétés, cette alliance primitive entre le poétique et le rationnel. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer dans les titres de mes livres.
Oui, je pense à Triste Tropique aussi.
C'est oui, un titre. Mais Triste Tropique, ça c'est autre chose, parce que Triste Tropique, au départ, c'était un roman.
Oui.
J'avais décidé d'écrire un roman quand je suis rentré du Brésil et j'ai commencé à l'écrire dans les quelques semaines qui se sont écoulées entre la date de mon retour et ma mobilisation pour la guerre. Parce que, avec un bon esprit d'opportunité, je suis revenu en France, exactement, pour me faire mobiliser. Mais j'ai très vite renoncé parce que je me suis aperçu, au bout de 50 pages, que je faisais du très mauvais Conrad et que, bon, j'étais pas fait pour ça.
1986, Claude Lévi-Strauss au micro de Colette Fellous, Gérard Manset, peut-être parce qu'il nous permet d'avancer sur la question posée par un petit garçon sur le premier titre de votre disque À bord du Blossom, qui dit « Et la poésie, c'est quoi ?»
En tout cas, je salue cette intervention que vous avez choisie. Je suis un admiratif inconditionnel de Lévi-Strauss. Et il a résumé, je l'ai noté au passage, il a dit « Dans la poésie, on trouve du rationnel à l'état latent ». Et ça résume tout. C'est la réponse d'ailleurs au petit garçon en question, mais surtout, c'est la réponse aussi à son œuvre, parce que ce qu'il ne dit pas, c'était un roman qu'il a voulu faire avec Triste Tropique, qu'il a plus ou moins abandonné avant, mais il avait commencé beaucoup plus petit, cette chose-là. Et donc, c'était un roman d'adolescent qu'il a laissé de côté, et puis ça lui est revenu quand il est rentré du Brésil. Et ce qui est merveilleux dans Lévi-Strauss, et c'est pour ça qu'il a eu, je crois, je sais pas, le Goncourt, avec je ne sais pas ce qu'il a eu avec Triste Tropique, mais je crois qu'il a eu un très grand prix. Et donc, ce Triste Tropique qui est devenu voilà, l'emblématique de l'intelligence voyageuse et ethnographique, eh bien, ce Triste Tropique, il était avant toute chose poétique. C'est Capitaine, c'est le Blossom, exactement.
Un Triste Tropique qui commence par « Je hais les voyages et les explorateurs ».
Exactement.
Gérard Manset. Et c'est aussi quelque chose qui nous emmène sur la question de, justement, du mythe des origines, de la manière dont vous écrivez un voyage musical dans des îles où le capitaine rencontre des êtres qui seraient, comment les présenter d'ailleurs Gérard Manset, ces êtres-là que rencontre le capitaine?
On disait, à l'époque, on disait des primitifs. Ce qui n'avait absolument aucune connotation péjorative. Au contraire, je vais même probablement dire laudatif, parce que cette sorte de primitivité ou de primitivisme ou de primatation ou de primativisme, bon, en tout cas, elle paraissait immensément inaccessible à ceux qui la découvraient et regrettaient de l'avoir perdue. On est toujours dans la même problématique. Alors, qu'est-ce qu'il rencontre? Ben, il rencontre tout. Il rencontre tout ce qu'on rencontrait à cette époque-là, avec lesquels les langues, on ne les connaissait pas. On parlait par gestes. On se prenait une sagaie, hein, comme Magellan qui, je crois que c'est Magellan qui arrive à ses bouts et voilà, il se prend une flèche, il est fléché, il reste à ses bouts.
Mais quand même, présenter ces primitifs dans votre disque comme le bon, le libre, le beau, quelque chose que on pourrait presque rapprocher du mythe du bon sauvage, quoi. C'est-à-dire que les personnes rencontrées par le capitaine sont de cet ordre-là, un peu.
Mais oui, mais mythique. Alors pourquoi prendre autant de précautions? On pourrait presque rapprocher de. Non, c'est même pas le mythe, c'est la réalité.
Non, parce que j'ai l'habitude d'avancer à tâtons. Vous savez, j'ai du mal à affirmer les choses.
C'est la réalité.
Réalité de quoi? De ce que vous avez écrit?
De ce que j'ai écrit, mais c'est la réalité. Moi, je n'écris que la réalité. Ça veut dire que c'est la réalité. Et la réalité que mes yeux de petit garçon arrivent à percer et à mettre à jour. Mais en tout cas, c'est Paul et Virginie. Je recommande à tous ceux qui écoutent cette émission, s'ils ne l'ont pas lu depuis très longtemps, l'abbé Prévost, non, c'est pas l'abbé Prévost, c'est Bernardin de Saint-Pierre, 17e siècle, voilà, ou 18e, enfin, ou à la charnière des deux, Paul et Virginie. Il faut écrire comme ça, il faut voir le monde comme ça, et il ne faut pas en sortir.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire pureté des sentiments, amabilité, courtoisie, décence, taire les mots qu'il ne faut pas dire. On en revient toujours à la transparence de tout à l'heure. Dans Paul et Virginie, rien n'est dit, sinon de très belles choses qui font du bien.
Ça veut dire que votre horizon à vous, c'est d'effacer toute la conflictualité possible ?
Alors non, il y en a dans Paul et Virginie, puisqu'il la voit même mourir dans le bateau qui prend feu. Donc non, il y a évidemment, et puis il y a des sauvages, et puis ils se font agresser, et puis il y a des tueries. Il s'agit pas du tout d'occulter quoi que ce soit et de taire quoi que ce soit. Il s'agit de dire ces choses avec les mots choisis, de faire très attention aux mots. C'est les mots qui détruisent l'humanité, ce sont pas les faits. On en revient toujours à la forme et au fond.
Il y a des mots qui vous détruisent, vous, Gérard Manset.
Pas moi, encore une fois, moi...
Il n'y en a aucun, parce que vous êtes comme un autre être humain.
Oui, mais moi, je m'en préserve, je connais des moyens de m'en préserver. Je sais ce qu'il ne faut pas aller voir, je sais ce qu'il ne faut pas lire, ou je le ressens tout de suite et je tourne le dos. Mais beaucoup de gens ont pris le parti, je ne sais pas par quelle sorte d'anticompétence en eux, d'entrer là-dedans, d'y être aspiré, d'en redemander. C'est la Française des Jeux. On peut jouer ou ne pas jouer, mais quand on a juste le SMIG ou même pas, ou une petite retraite et qu'on joue, c'est beaucoup plus dangereux. Si on est éminemment riche, bon, pourquoi pas la Française des Jeux, une fois par semaine. Mais donc la communication aujourd'hui, les livres, les romans, on ne parle que de gens éviscérés, que de gens assommés. Il y a que des enquêtes, il y a que des inspecteurs, on ne sait pas quoi.
Bon, on va vous faire une petite piste de livres à emporter chez vous, depuis le bureau. On va vous concocter ça, Gérard Manset.
C'est gentil.
Bah oui, quand même, on va s'occuper de vous pour vous mettre d'autres choses à lire et qui paraissent par les temps qui court, comme dit le titre de cette émission.
Après, il faudra donner des titres, il ne faut pas rester dans le vide. Donner des titres et des noms, pas avec moi, ce n'est pas le lieu et l'heure, mais une autre émission, vous la consacrerez intégralement à des choses positives d'aujourd'hui.
Promis.
Bon.
Juré. Dans ce disque donc très positif à bord du Blossom, vous parliez tout à l'heure de paradis pas exactement perdu, puisque tout ce que vous décrivez de forme de sensibilité au monde, de regard au monde depuis ce que vous appelez l'enfance, Gérard Manset, finalement vous dites qu'il n'y a pas de paradis perdu pour vous, sauf, je trouve, dans Pourquoi les femmes. On entend quelque chose d'un paradis perdu. Pourquoi les femmes sont-elles devenues si méchantes? Pourquoi se sont-elles asséchées avec le reste? Comme si là il y avait quelque chose de l'ordre d'un monde qui avait disparu pour vous?
Il a disparu. Oui, on peut y venir. Je l'ai mis à la fin, enfin en avant-dernier titre.
Pas tout à fait à la fin.
En avant-dernier titre.
C'est l'oiseau de paradis à la fin.
Voilà, pour un petit peu calmer l'affaire. Mais oui, je suis d'une génération auquel on admettra ce genre de propos, puisque j'ai connu autre chose. Ceux qui ont 40 ans, 35 ans aujourd'hui n'ont pas connu ces époques-là. Donc ils peuvent penser que c'est inventé, fantasmé. Ça n'est ni inventé ni fantasmé. Je reviens à Paul et Virginie. On parlait comme ça. On parlait aux filles comme ça. Filles répondaient comme ça. Ben, c'est-à-dire, c'est ce qu'on lit dans l'Assommoir, quand le dénommé Coupeau rencontre, je crois que c'est Gervaise, à la terrasse d'un café, il a beau être s'occuper des toitures et elle a beau être blanchisseuse, on a une distinction, une correction, comme on n'en voit plus jamais dans aucun film, dans aucun scénario, dans aucun des récits voilà, sur lesquels vous ferez une autre émission prochainement. Je veux dire, ça n'existe plus, cette courtoisie, ce langage calant, galant, ce langage galant, c'est tout.
Mais dans ce titre-là, vous dites aussi qu'à l'époque, on lançait des filets et que les femmes étaient des poissons et qu'on pouvait les pêcher à sa guise.
Pas mal.
C'est vrai, hein, un peu comme ça. C'est pas comme du Gérard Manset, mais c'est bon.
Ah oui, c'est résumé. Pêcheur lui-même avec son grand filet. Oui.
C'est ça, hein, de cet ordre-là.
Pourquoi pas, bien évidemment. Mais les poissons en frétillaient d'aise. Je veux dire, elles aimaient. Les filles ont toujours aimé. D'ailleurs, dans ma diatribe, non, je sais pas, on dirait pas ça, dans mon texte un petit peu polémique ou un petit peu critique, désespéré sur la manière dont les femmes ont changé, évidemment que on ne peut pas toutes les mettre dans le même sac. Il y en a quelques-unes qui arrivent à échapper à cet état de fait. Alors je disais, soit parce qu'elles manient l'ironie, ça peut arriver, alors elles manient l'ironie. Alors déjà, elles peuvent être jolies, elles peuvent être sympathiques, comme en ce moment l'émission que je fais avec quelqu'un, voilà. Donc c'est plus difficile, là je suis désarmé, parce que je n'ai pas une de ces...
Et avant, non, une... quoi.
Non,
avant,
non, mais
ça n'existait
c'est
pas.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous sembleriez être de cette époque révolue, comme ça, pour une heure ou pour trois quarts d'heure. Mais donc je dis je suis désarmé parce que je ne suis pas face à une des harpies qu'on voit à la télévision régulièrement. Donc c'est très difficile de soutenir un argument comme le mien dans pourquoi les femmes sont-elles devenues méchantes. Parce que les femmes sont devenues méchantes.
Mais en même temps, c'est vous qui dites les femmes. Hein. Donc si vous ne voulez pas faire de généralité, il ne faut pas écrire les femmes.
Alors j'aurais pu dire quoi, 99% des femmes ?
Si vous en avez rencontré 99%, vous y êtes autorisé.
Non, mais encore une fois, il ne s'agit pas de mon existence personnelle. Moi,
celle du capitaine.
Non plus seulement celle du capitaine. Il s'agit de ce que le capitaine lui-même lit dans les journaux, voit à la télévision, lit dans les récits d'aujourd'hui et dans les films d'aujourd'hui, qui sont censés, pour une part, refléter la société. C'est tout. Bon. Donc je dis, celle qui arrive plus ou moins aujourd'hui à se tirer de ce lot-là, c'est en maniant l'ironie, la désinvolture et... évidemment, ce qu'elles ont eu à la naissance, le charme pour certaines d'entre elles. Donc là, on revient à la case départ.
Est-ce que ce n'est pas le monde qui a changé plutôt que les femmes, Gérard Manset ?
Ben, c'est le monde qui les a fait changer. C'est-à-dire qu'on leur a raconté tout un tas de sottises, voilà, qu'elles ont eu le tort de croire. Mais c'est tout. Mais évidemment que les pauvres, elles n'y sont pour rien. Ce sont des objets, là. Elles ont été manipulées, bien sûr.
Les pauvres. Je vous propose qu'on fasse même carrément toute une émission sur cette chanson-là, parce que je crois que là, on aurait vraiment du mal à...
Mais avec d'autres invités que moi.
Ah oui, avec d'autres invités que vous. Une table ronde entière sur pourquoi les femmes sont-elles méchantes.
Mais peut-être
Devenues. Mais peut-être dire que ce disque se termine par un oiseau qui s'appelle le paradisier. On a commencé notre discussion tout à l'heure en disant que les oiseaux avaient des choses à nous dire. Qu'est-ce qu'il a à dire, l'oiseau du paradis, à la fin de ce disque-là ?
Alors déjà, on en revient toujours à la forme et pas au fond. On en revient toujours à l'opacité. C'est marrant comme quoi tout ça, ça se recoupe. L'oiseau de paradis, vous avancez dans la forêt, il a plu, il y a eu le bruit des gouttes sur la pluie. Et tout d'un coup, dans une clairière obscure, comme tous ces pays en ont, on est en Irian Jaya, là. Et donc, entre les feuillages, on voit. On ne réfléchit pas, on ne nous explique pas, on n'a pas un cours là-dessus. On voit la beauté absolue avec une queue en panache d'1,50 m. On ne peut pas s'approcher. Si on s'approche, il va s'envoler. On n'est pas là pour le capturer et pour le disséquer. Donc, encore une fois... C'est strictement, non pas l'ignorance, c'est simplement le fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas la possibilité de s'approprier, et qui serait d'ailleurs tout à fait destructeur de vouloir s'approprier. Donc on a vu une parcelle de paradis quelque part, le paradisier.
Merci beaucoup Gérard Manset, on a parlé de ce disque à bord du Blossom, un capitaine mystérieux, nous fait de l'œil derrière la pochette.
C'est vrai.
Merci à vous.
Merci.
Au son ce soir, c'était Valérie Lavalard, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture. Quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous pouvez vous abonner au podcast, réécouter cette émission, réécouter celles qui l'ont précédée, trouver les titres des musiques diffusées et la référence des archives et aussi un endroit pour nous écrire. Merci beaucoup à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvier qui m'aident à penser et préparer cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.